Radio Barque, c'est notre 19e et nous entamons cette deuxième partie avec notre invité du jour, Thierry Lascombe, président de l'association, parce que c'est une association de la protection civile de l'Aude. Alors nous avons, Thierry Lascombe, évoqué avec vous dans une première partie ce qu'est la structure, son fonctionnement, son financement. On a peut-être aborder, mais à peine, les missions que vous faites, et vous en faites souvent des spectaculaires, entre guillemets, et en tout cas très médiatisées. On va commencer par une récente, qui est l'intervention à Mayotte.
Oui.
Alors, dites-nous déjà comment ça se décide. Vous ne partez pas avec le sac sur le dos, comme ça, sans préparation. Qui y va? Comment vous y allez? Et pourquoi?
Or, ça c'est... Ça a commencé à se préparer quand il y a eu la préalerte sur le cyclone qui devait...
C'est-à-dire à l'avance, là?
Oui, tout
à fait. À l'avance, déjà.
Voilà. Il y avait une préalerte au niveau national de notre fédération qui avait été mise en place en disant il y a un cyclone et ce cyclone devrait passer et devrait engendrer de très gros dégâts. Si vous avez du personnel de disponible, inscrivez-vous et puis si c'est maintenu autorisé, il y aura un départ, ce qui a été le cas. Donc notre fédération, en lien avec le président de l'Association des maires de France, M. Lisnard, a travaillé conjointement. Et quand le départ a pu se faire, les équipes ont rejoint donc toutes les associations de protection civile au niveau national qui avaient des bénévoles disponibles, ont rejoint Paris. Et de là, à chaque fois, il y a eu 50 personnes qui sont parties. On est à la 7e vague. Hein,
donc oui, dont vous avez fait partie.
Alors, on a été la première vague à partir. Donc, ça a été, à chaque fois, ce sont des vagues de 15 jours. Et on a passé la période de Noël, jour de l'an, sur place.
On va y revenir. Mais vous dites que votre interlocuteur institutionnel, c'était pas l'État, c'était l'Association des maires de France.
Alors, c'est en lien avec la fédération, donc notre président national et le président de l'Association des maires de France, où ils ont souhaité mettre cette action en faveur de soutien de population en place, de façon à ce qu'on soit reçu et que les maires de Mayotte sachent que nous arrivions sur place pour les aider. Ce qu'il y a, c'est que quand on arrive sur place, on se retrouve sans eau, sans électricité, sans communication, sans télécommunication, avec un chaos général. Et il a fallu qu'on aille au plus près des mairies pour rencontrer les maires, leur dire ce que nous étions en mesure de faire pour eux, et surtout ce qu'ils avaient besoin que l'on fasse pour rendre service et faciliter un retour, on va dire, à la normalité, une résilience par rapport à ce qui venait de se passer.
Voilà, mais le premier interlocuteur pour vous, là-bas, une fois sur place, ce sont les maires.
C'est les maires, oui, tout à fait.
Oui, c'est important de savoir. Alors après, une fois que vous avez rencontré le maire, décrivez-nous ce qui se passe.
Le maire nous dit les problématiques qu'il a rencontrées sur sa commune, les besoins qu'il a, et à partir de là, on recense, on organise, on fait une priorité des urgences. Donc ça va être à la fois rétablir dans une première partie, c'est les voies d'accès pour les véhicules, pour les secours. Ça va être ensuite de débarrasser tout ce qui peut gêner le passage, à la fois des chemins, des routes, des maisons, mais également des rivières, donc les embâcles, les tôles qui sont partis un peu partout avec le vent. C'est ensuite débarrasser les rues des immondices qui ont été déplacées par le cyclone aussi. Ça va être couper du bois, ça va être prendre en charge...
Couper du bois pour le chauffage, non pas pour le chauffage.
Non, pas pour le chauffage.
Vu la température
du
pays.
Tout à fait. Des conditions très difficiles. Hein. Vous en parlez, de la température, 35 degrés en moyenne, 80% d'humidité, des pluies torrentielles des fois la nuit, des fois en journée, donc des conditions de travail très difficiles. Et pour en revenir à la prise en charge des personnes blessées, ça a été essentiellement des personnes victimes donc du cyclone, des déplacements des matériaux liés au cyclone avec beaucoup de coupures, des plaies importantes, et ensuite liées aussi à la reconstruction, parce que la reconstruction des bangas s'est faite très rapidement. En 4 jours, les personnes qui avaient perdu leur toit l'ont remis sur la tête.
Donc oui, ce sont ces fameuses cabanes en tôle là, que vous appelez comment ?
Les bangas.
Les bangas aussi.
Voilà, c'est le terme qui définit les bidonvilles sur Mayotte, sur chaque flanc de colline, et où il y a des milliers de personnes qui habitent là. C'est une ville. C'est une ville avec beaucoup de résilience. J'avais déjà dit, pour le peuple maoré, une force de caractère. Voilà, la survie, remettre un toit, et puis après reprendre le cours, on va dire, un peu normal de la vie, avec il faut manger, il faut pouvoir vivre, et il y a toute une économie souterraine, entre guillemets, qui se remet en place dans les bangas.
Parce que ce genre de cataclysme, sans dire que c'est du quotidien, c'est quand même récurrent, de par le climat de cette île.
Ben je crois que ça fait très longtemps qu'ils n'avaient pas eu
quand même.
Un cyclone aussi violent. Comme nos amis de La Réunion qui viennent d'être frappés par un cyclone, dont nos homologues de La Réunion, de la protection civile, qui nous ont reçus quand on est arrivé de la métropole, nous ont reçus chez eux avant d'aller sur Mayotte, ont été très touchés, à la fois sur le plan matériel, mais psychologiquement aussi. Et là, d'ailleurs, on a des collègues qui, de la protection civile, donc au niveau de la métropole, qui se sont mobilisés, qui sont actuellement sur place pour les aider à faire, alors non pas du secours à personne, mais plutôt un rétablissement des voies d'accès, et puis aider les personnes, les habitants, dans tout ce qu'ils ont pu avoir comme dégâts, ou chez eux, ou dans leur jardin.
Oui, et là, on parle non plus de Mayotte, mais de La Réunion, c'est-à-dire même type de cataclysme, finalement.
On sera appelé, malheureusement, à retrouver ce type de catastrophe naturelle un peu partout, puisque, bon, je ne sais pas s'il y a une corrélation, mais probablement avec le réchauffement climatique, et on le retrouve de façon régulière sur les dom-toms.
Oui, et sur ce type de climat.
Sur ce type de climat, voilà. Donc on sera appelé sans doute à revenir le plus tard possible, mais à revenir pour aider les personnes qui seront dans le besoin.
Oui, ça fait partie des choses prévisibles.
C'est quelque chose qui est ancré et qui est chez nous quelque chose qui est préparé pour
oui,
ça.
Oui, voilà. Et en fait, c'est votre raison d'être d'une certaine façon.
Oui.
Vous, protection civile.
Alors, porter secours aux populations.
Voilà. Où qu'elle soit. Alors revenons, Thierry Lascombe, sur ce voyage à Mayotte. Vous avez parlé de La Réunion. Vous partez de Paris, donc, une cinquantaine de personnes.
50 personnes de Paris, arrivées...
Sur un vol régulier, je crois.
Oui, sur un vol régulier à La Réunion. Ensuite, bon, un stand-by à La Réunion, parce qu'il faut, pouvoir se déplacer à Mayotte en sécurité.
Et comment vous êtes allé de La Réunion à Mayotte ?
En avion.
En avion aussi.
Voilà, tout à fait, parce qu'en bateau, je crois qu'il faut
compter... C'est loin quand même.
Il faut compter 2-3 jours hein, en bateau pour faire le tour de la pointe de Madagascar. Donc ça a été en avion, mais il a fallu attendre que les voies puissent être rétablies, à la fois à l'aéroport et également toute la partie tour de contrôle, parce qu'il n'y avait que les avions militaires qui pouvaient se déplacer, et il y avait une priorité, bien sûr, à la sécurité civile, aux pompiers, gendarmes, militaires, de pouvoir porter les premières actions de secours sur place. On a pu y aller après quelques jours d'attente sur Mayotte. À notre arrivée, donc, à Petite Terre, où il y a l'aéroport, on a pris une barge, parce qu'à partir de là,
alors c'est une petite île, il y a 2 îles sur Mayotte,
c'est ça,
apparemment.
Donc petite terre et grande terre. Pour aller de l'une sur l'autre, il faut une barge, pour pouvoir mettre le matériel, les hommes, le véhicule, et éventuellement ce qu'on a pu amener en termes de matériel. Mmh. Et une fois qu'on est donc sur grande terre, on a eu l'occasion d'avoir donc un hangar qui a été loué par la protection civile pour accueillir les bénévoles dans des situations précaires, mais plus confortable que les habitants après le cyclone.
Enfin, vous étiez en camping quand même.
Oui. Promiscuité très, très compliqué parce que on a dû à plusieurs reprises passer les raclettes parce qu'on a été inondé dans cet entrepôt qui était un entrepôt de BTP, donc pour rentrer des engins. Et nous, on y dormait, on y mangeait et on essayait de se reposer et de préparer les missions pour le lendemain. Donc oui, ça a été comme ça.
Mais quand vous dites le matériel, vous êtes arrivé en avion, donc vous n'avez pas pu de la métropole apporter beaucoup de matériel. Ce matériel, vous l'avez trouvé sur place ?
Alors il y a eu deux choses. Enfin, il y a eu un envoi massif de matériel de la métropole sur la Réunion.
Directement sur la Réunion.
Ensuite, on a acheté des biens sur la Réunion, de la marchandise, de l'eau, des rations, du matériel dont on pourrait avoir envie sur place, besoin. Et ensuite, ça a été acheminé par vol, donc en avion, sur Mayotte.
Sur Mayotte, mais vous dites on a acheté. C'est-à-dire c'est vous qui avez financé cet achat.
C'est la Fédération de Protection Civile qui a financé les achats des palettes d'eau, de rations, du matériel, qui a fourni des tronçonneuses, qui a fourni du matériel pour pouvoir travailler sur place, y compris louer des tractopelles. On a loué des tractopelles pour pouvoir déplacer le bois, pour pouvoir prendre en charge les tôles, pour pouvoir évacuer les poubelles. Donc ça, c'est un travail très 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 important. Donc oui.
Oui, mais ce qui est surprenant, c'est que finalement, vous êtes obligé de vous-même de financer un certain nombre de choses, y compris les locations, vous dites, tractopelles, etc.
Effectivement.
Vous arrivez comme une entreprise privée, d'une certaine façon, qui doit gérer ses actions et son budget.
Mais le but, c'est d'arriver d'être, on va dire, autonome et de ne pas être une charge ou une contrainte pour les personnes qu'on va secourir. Donc notre fédération fait le nécessaire avec des partenaires qu'elle peut avoir, notamment l'entreprise Total qui a été présente dès le départ pour donner un don suffisamment important pour pouvoir lancer cette mission qui quand même au bout de cette rotation est toujours présente et devrait se s'arrêter très certainement dans les jours ou semaines prochaines, comme beaucoup de secours qui sont sur place.
Voilà, mais ce don a été fait à la Fédération nationale.
À la Fédération nationale, avec un appel aux dons aussi qui a été fait au niveau national, et où les dons qui ont été perçus ou ont été directement envoyés à la Fédération pour gérer toute la partie matérielle, déplacement.
Oui, voilà.
Parce que les billets d'avion ne sont pas gratuits.
J'imagine.
Le matériel n'est pas gratuit non plus. Et il faut louer du matériel sur place. Et c'est compliqué quand on arrive sur un territoire où...
Sinistré en plus.
Qui est sinistré et dont les véhicules ont été réquisitionnés par la préfecture pour que les personnes, les premiers arrivants, les pompiers, les gendarmes, puissent se déplacer. Parce que sans vecteur pour se déplacer à la rencontre des élus ou des populations, on ne peut rien faire.
Voilà, mais donc, il y a un financement autonome, je crois que c'est ça qui est important de percevoir. C'est cette autonomie. On paye en quoi à Mayotte, en euros ?
Je pense que oui.
Comme c'est un territoire français.
Oui, on parle le français aussi, bien sûr.
Oui.
Mais il y a une mixité des populations, donc ça parle aussi malgache et ça parle et également le maoré.
C'est la langue d'origine du pays. Oui. Mais étant donné que c'est français depuis un certain nombre d'années, j'imagine qu'à l'école, l'enseignement se fait en français. On peut le penser.
Je crois que c'est mixte.
Ou mixte, alors peut-être.
Je pense que c'est mixte.
En tout cas, tout maoré.
Mais on n'a pas eu l'occasion parce que toutes les écoles étaient fermées.
Oui.
Mais heureusement, alors elles étaient fermées, mais des jeunes sont venus nous aider justement quand on avait des files d'attente dans les écoles ou dans des dispensaires qui avaient été ouverts par la protection civile pour pouvoir faire la traduction avec les personnes parlant le maoré ou le malgache. Et ces jeunes qui étaient à l'école parlaient bien le français. parce qu'ils arrivaient à facilement faire la traduction et ça nous permettait d'échanger avec les personnes que nous prenions en charge.
Voilà, donc l'utilité donc, de ces jeunes, ne serait-ce que comme traducteurs, comme interprètes. On marque, Thierry Lascombe, une seconde pause. On se retrouvera dans une troisième partie pour évoquer encore un peu plus les missions et le fonctionnement de la protection civile. Je précise que vous présidez la protection civile de l'Aude. À tout de suite.